VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du lundi 22 août 2022. Avec vous, Eric Manilakiza. Voici d'abord le sommaire. Au Kenya, Raila Odinga conteste les résultats de la présidentielle devant la Cour suprême. En Angola, les électeurs sont appelés aux urnes mercredi pour des élections législatives qui décideront du prochain président. En Guinée, l'ONU, préoccupée par l'évolution des droits humains, et l'armée américaine va survoler l'Europe du Sud-Est dans une nouvelle démonstration de force pour rassurer les alliés et partenaires de l'OTAN. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Kenya, comme promis, l'opposant Raila Odinga a déposé ce lundi un recours devant la Cour suprême contestant les résultats de l'élection présidentielle du 9 août. La plus haute instance judiciaire du Kenya a 14 jours pour rendre sa décision. Le point avec Abdourahmane Dia.
Après une version électronique transmise en ligne le matin, la copie physique est arrivée de manière spectaculaire peu avant 13h heure locale, environ une heure avant l'heure limite. Des dizaines de cartons de documents ont été acheminés par camion à la Cour suprême de Nairobi, puis déchargés devant les caméras et sous les acclamations de partisans d'Odinga. L'opposant historique de 77 ans, soutenu par le président sortant Uhuru Kenyatta, était déjà arrivé sur place auparavant. Selon la requête consultée par l'AFP, le camp Odinga affirme notamment que 140 000 28 bulletins n'ont pas été pris en compte et que cela affecte sensiblement les résultats finaux et qu'un second tour est nécessaire. Selon les résultats annoncés la semaine dernière par le président de la commission électorale, le vice-président William Ruto l'a devancé d'environ 233 000 voix. Le 15 août, la proclamation des résultats avait donné lieu à une scission au sein de cet organe indépendant en charge de l'organisation du scrutin. D'autres recours seront également examinés par les 7 juges de la Cour suprême.
Les Angolais sont appelés aux urnes mercredi pour des élections législatives qui vont décider du prochain président. Le scrutin s'annonce serré. Claire Morigibourg.
8 partis politiques sont en lice avec un duel attendu entre les deux principaux partis, le MPLA ou Mouvement Populaire de Libération de l'Angola au pouvoir depuis l'indépendance en 1975 et l'UNITA, le plus grand parti d'opposition. Le président João Lourenço, à la tête du MPLA, est candidat à un deuxième mandat. En Angola, le président du parti ou de la coalition qui domine l'Assemblée devient automatiquement président de la République. Le pays, qui compte 33 millions d'habitants, est riche en pétrole, mais une grande partie de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Mais beaucoup d'Angolais se détournent du parti au pouvoir. Depuis un an, l'UNITA et son leader, Adalberto Costa Junior, ont réussi à rallier plusieurs partis d'opposition et à rassembler de jeunes électeurs urbains autour de promesses de réforme et de lutte contre la pauvreté et la corruption. Selon les récents sondages, les électeurs nés après la guerre civile qui s'est terminée en 2001 sont moins attachés au MPLA que leurs aînés.
L'ONU a exprimé auprès du chef de la junte en Guinée ses profondes préoccupations devant l'évolution de la situation des droits humains après la mort de plusieurs personnes lors de récentes manifestations et l'arrestation de nombreuses autres. Le point avec Michel Joseph.
Michelle Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, a écrit au colonel Mamadi Doumbouya pour faire part de ses profondes préoccupations face à l'évolution récente de la situation des droits de l'homme en Guinée. Madame Bachelet évoque les morts entraînées par le recours à la force de la part des forces de sécurité lors des manifestations du 28 et 29 juillet. 5 personnes ont été tuées dans la banlieue de Conakry et 2 autres lors d'une nouvelle manifestation le 17 août. Michelle Bachelet se dit aussi préoccupée par les informations faisant état d'un grand nombre d'arrestations. La junte a décrété le 6 août la dissolution du Front National pour la Défense de la Constitution, ou FNDC. Une telle mesure est une atteinte grave au droit à la liberté d'association et de réunion publique, écrit Madame Bachelet. Elle demande aux autorités guinéennes d'enquêter sur les morts survenues au cours des manifestations, de libérer les détenus et de réautoriser le FNDC.
9 personnes ont été tuées vendredi dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs à 500 km au sud d'N'Djamena. Les violences entre communautés sont fréquentes dans le centre et le sud du Tchad où nombre d'habitants sont armés. Ils opposent principalement des éleveurs nomades arabes aux cultivateurs autochtones sédentaires. Des hommes armés ont enlevé dimanche 4 religieuses catholiques dans l'état d'Imo dans le sud-est du Nigeria où les kidnappings contre rançon sont légion, a déclaré lundi la police. Nous sommes sur la trace des ravisseurs en vue de libérer les victimes, a précisé le porte-parole de la police d'Imo, Michael Abatam. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué cet enlèvement. Le premier ministre somalien a appelé à l'unité et a assuré que le gouvernement assumera ses responsabilités après la sanglante attaque menée ce week-end par les islamistes radicaux Shebab contre un hôtel de Mogadiscio qui a fait au moins 21 morts et 117 blessés. Il a appelé le peuple somalien à s'unir pour lutter contre l'ennemi et pour se libérer afin que ce qui s'est passé là ne se reproduise jamais, a-t-il ajouté. Au moins 43 personnes ont péri dans les gigantesques incendies qui ont ravagé ces derniers jours les zones forestières et urbaines du nord-est de l'Algérie, selon un nouveau bilan fourni lundi. Le commandement de la gendarmerie nationale a indiqué que le processus d'identification des corps se poursuit. La gendarmerie a également annoncé l'arrestation de 13 personnes soupçonnées d'être impliquées dans ces incendies criminels qui ont aussi fait près de 200 blessés, dont beaucoup brûlés grièvement. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi accueille lundi les dirigeants des Émirats arabes unis, de l'Irak, de Bahreïn et de la Jordanie lors d'un sommet qui portait sur les développements régionaux et internationaux. Selon le quotidien d'État Al-Aram, figure au programme des discussions sur les enjeux de sécurité énergétique et alimentaire. Seront également discutés les dossiers yéménites, libyens, syriens et palestiniens. Sur les 5 pays représentés au sommet de lundi, seul l'Irak n'a pas normalisé ses relations avec Israël.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'éminent docteur Anthony Fauci, principal conseiller du président américain Joe Biden sur le Covid-19 et qui était devenu le visage de la lutte contre la pandémie aux États-Unis, a annoncé lundi à 81 ans qu'il quitterait ses fonctions en décembre. Le président Joe Biden a immédiatement adressé ses profonds remerciements au docteur Fauci pour son travail. Les États-Unis sont plus forts, plus résilients et en meilleure santé grâce à lui, a-t-il salué dans un communiqué. Deux avions de l'armée américaine ont survolé ce lundi plusieurs pays en Europe du Sud-Est, a annoncé le commandement américain. Il s'agit, d'après Washington, d'une nouvelle démonstration de force pour souligner l'engagement des États-Unis aux côtés des membres de l'OTAN. Mouhamadou Onfa.
Les bombardiers du type B-52 Stratofortress basés au Royaume-Uni ont d'abord survolé la capitale de la Macédoine du Nord, observée par plusieurs dizaines de passants. Ils sont ensuite passés en Albanie voisine avant de longer la côte du Monténégro pour aller vers la ville croate Dubrovnik. Le but de chaque survol est de démontrer l'engagement et l'assurance des États-Unis envers les alliés et partenaires de l'OTAN situés en Europe du Sud-Est, selon l'armée de l'air américaine, alors que la guerre en Ukraine entre dans son 7e mois. Je suis content de voir mon pays qui a souffert sous la dictature communiste avoir un fidèle allié comme les États-Unis et encore plus d'être partenaire de l'OTAN, a expliqué un ingénieur macédonien à la retraite, témoin du survol. Le président Joe Biden a fait du rétablissement des relations transatlantiques une priorité de sa politique étrangère. L'OTAN fait partie des fondations de la sécurité des États-Unis, a-t-il déclaré récemment. En juin, deux avions de chasse F-35 ont déjà survolé les pays baltes, où l'OTAN a également renforcé sa présence.
Trois policiers américains ont été suspendus après la diffusion en ligne d'images les montrant en train de frapper violemment un homme durant une arrestation dans l'Arkansas, ont annoncé les autorités dimanche soir. Le chef de la diplomatie européenne indique qu'une réunion pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien pourrait se tenir cette semaine à Vienne après la réponse de l'Iran au texte final préparé à l'Union européenne. Mais les États-Unis n'ont pas encore réagi publiquement. L'Union européenne envisage un accroissement significatif de son soutien militaire à l'Ukraine qui prendrait la forme de l'envoi d'une importante mission de formation de l'armée ukrainienne. Toujours en Ukraine, environ 9000 soldats ukrainiens ont été tués en 6 mois d'invasion russe, a déclaré lundi le commandant en chef de l'armée ukrainienne, cité par l'agence Interfax Ukraine. Les services de sécurité russes ont accusé lundi l'Ukraine d'avoir tué la fille d'un idéologue réputé proche du Kremlin. Daria Dugina a été tuée samedi soir dans l'explosion de sa voiture près de Moscou. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Mohamedou Oumfa.
Les organisations de défense de l'environnement, dont Greenpeace Afrique, ont affirmé lundi faire l'objet de menaces du fait de leur opposition à la vente aux enchères de blocs pétroliers en République démocratique du Congo. Le gouvernement de Kinshasa a lancé fin juillet des appels d'offres pour l'exploitation de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers en promettant de veiller au respect strict des normes environnementales. Greenpeace avait dénoncé ces projets, mettant en garde contre les graves conséquences qu'ils pourraient avoir sur les communautés riveraines, la biodiversité et le climat. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi accueille ce lundi les dirigeants des Émirats arabes unis, de l'Irak, de Bahreïn et de la Jordanie. Selon le quotidien d'État égyptien Al-Aram, figure au menu des discussions les enjeux de la sécurité énergétique et alimentaire, alors que dans la foulée de la guerre russo-ukrainienne, le prix des céréales, du blé notamment, a battu des records. Les 5 dirigeants arabes évoqueront selon la même source le dossier de la sécurité de l'eau et celui du barrage de la Renaissance qui suscite des tensions entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Les prix des billets d'avion devraient continuer à augmenter cet hiver selon des spécialistes interrogés par BFM Business. Cette tendance inflationniste s'explique d'abord par la hausse des coûts du pétrole qui s'est accélérée avec la guerre en Ukraine. Elle répond également au besoin des compagnies de rétablir leurs comptes après les lourdes pertes enregistrées depuis le début de la pandémie de COVID-19.
Vous avez reconnu l'indicatif, c'est la page des sports ce soir avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
En football, Walid Regragui, nouveau sélectionneur du Maroc.
Oui, la Fédération Royale Marocaine de Football a conclu donc un accord avec l'ex-coach du Wydad de Casablanca, Walid Regragui, pour prendre les rênes de l'équipe nationale, les Lions de l'Atlas, après le départ de Vahid Ali Lodish, remercié à 3 mois du mondial au Qatar, selon les médias locaux. Selon les sites spécialisés Hesport, Regragui a signé ce week-end un contrat de 3 ans avec la FRMF, c'est comme ça qu'on appelle la Fédération Royale Marocaine de Football. La nomination officielle du nouveau sélectionneur national est attendue dans les prochains jours, a indiqué à l'AFP, un porte-parole de la fédération sans plus de détails. Le choix de Walid Regragui, déjà largement commenté dès avant le départ de Khalid Halilhodžić, n'est pas une surprise.
Et en Angleterre, Bagassi, Tourelle accusé de comportement inapproprié pour ses critiques contre un arbitre.
Oui, la Fédération anglaise de football annonce que l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, avait été formellement accusé de comportement inapproprié après ses critiques contre Anthony Taylor, l'arbitre du match contre Tottenham, 2-0 le 14 août dernier. Il est allégué, c'est une citation, il est allégué que ses commentaires lors de la conférence de presse d'après-match, sous-entendant qu'une partialité et ou remettant en cause l'intégrité de l'arbitre du match et ou portant atteinte à la réputation de la discipline, explique la FA dans ce communiqué.
Enfin, Champions League, Benfica favori devant Kiev, le PSV Eindhoven méfiant face aux Rangers.
Oui, le Benfica à Lisbonne, vainqueur à l'aller, aborde avec confiance donc la réception ce mardi du Dynamo Kiev, alors que le PSV accroché en Écosse il y a une semaine devra s'imposer contre les Glasgow Rangers ce mercredi lors des matchs retour des barrages de la Ligue des Champions. Le club portugais, désormais entraîné par l'Allemand Roger Smith, s'est imposé 2-0 à Lodz en Pologne mercredi dernier contre le Dynamo. Le match ayant été délocalisé en raison du conflit en Ukraine, les Lisboètes, qui n'ont manqué aucune phase de poule de la C1 depuis la saison 2009-2010, pourront compter sur leur attaquant en forme, Gonçalo Ramos.
Tombeur de l'AS Monaco. Merci Bagassi.
Oui, merci bien.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manilakiza. Place au dossier du jour. En République centrafricaine, la tension politique remonte d'un cran. L'opposition dénonce une volonté du président Faustin Archange Touadéra de s'accrocher au pouvoir au-delà du délai constitutionnel et prévoit à cet effet une grande mobilisation le 27 août prochain à Bangui. Correspondance de Freeman Sipila.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est la position affichée par le président Faustin Archange Touadéra dans son adresse à la nation le 13 août dernier à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire d'accession à l'indépendance. Le président centrafricain s'est montré favorable à la rédaction d'une nouvelle constitution.
Je ne ferai rien sans la volonté du peuple, détenteur de la souveraineté nationale. Cependant, je ne saurais demeurer indifférent au cri de cœur de mon peuple. Je vous ai écouté. Je prends acte de vos sollicitations pressantes qui me sont parvenues de partout réclamant une nouvelle constitution. Notre constitution énonce de manière péremptoire que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce, soit par voie de référendum, soit par l'intermédiaire de ses représentants. Il appartiendra donc au gouvernement d'en aviser et de donner suite à votre demande.
La déclaration du chef de l'État ne passe pas dans le camp de l'opposition. La plateforme des jeunes leaders de l'opposition promet des actions. Ephrem Masséo, un des responsables.
La constitution actuelle n'empêche pas le président de la République à nous créer des universités pour compléter avec l'UNI qu'on en a depuis la nuit des temps. Ni n'empêche pas le gouvernement à construire des routes. Donc, si on veut vraiment vivre une paix durable dans ce pays, il faut qu'on essaie de mettre en avant la notion de l'alternance politique. Nous, on va utiliser les moyens légaux qui seront à notre disposition. On a des textes du pays qu'on va exploiter et pour essayer de mener à bien ce combat.
Le 6 août dernier, des dizaines de milliers de centrafricains ont marché dans plusieurs villes du pays à l'appel des organisations proches du pouvoir pour soutenir le projet d'une nouvelle constitution. Pour le bloc républicain, pour la défense de la constitution, l'adresse du président Touadéra à la nation démontre sa volonté de s'accrocher au pouvoir. Crépin Bolgumba, coordonnateur de ce bloc qui regroupe les principaux parti de l'opposition.
Ce qui se projette, c'est un pouvoir totalitaire, avec un président tout-puissant qui décide de tout, entouré de courtisans chantant ses louanges. Ce serait un tragique recul qui amoindrirait les énormes sacrifices consentis par le peuple centrafricain, au travers de son histoire mouvementée pour triompher de la dictature et instaurer une société de liberté et de cohésion sociale. D'ores et déjà, nous annonçons pour le samedi 27 août 2022 la tenue d'un grand meeting à l'ex-Pukatex pour aller à la rencontre du peuple, le vrai, celui qui souffre tous les jours, mais qu'on ne manipule pas avec 500 francs CFA.
Plusieurs diplomates présents dans le pays se réservent de commenter cette tension politique. Certains parlent d'une affaire intérieure à l'État centrafricain. Pendant que la tension monte au sein de la classe politique, l'Assemblée nationale a répondu favorablement à la demande du gouvernement de mettre en place un comité de rédaction d'une nouvelle constitution. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
En RDC, près de 15 morts et une trentaine de blessés ont été enregistrés entre vendredi et dimanche à Kwamouf, dans la province de Maïndombe. Au nord-ouest de Kinshasa, la société civile et les élus de Maïndombe parlent d'un conflit qui oppose deux tribus locales, à savoir les Bateke, originaires de cette région, et les Bayaka. Les détails avec notre correspondant à Kinshasa, Alex Kati Kataï.
Tout commence il y a environ un mois dans le territoire de Kwamout, dans la province de Maïndombe. Les Bateke originaires réclament une redevance coutumière aux Bayaka, non originaires, sur les ventes des lopins de terre. Ces derniers qui vivent dans cette région depuis plus d'un siècle voient cela d'un mauvais œil. Ils refusent de payer la redevance et entreprennent l'installation de certains d'entre eux comme chefs dans certains villages. Se sentant menacés et nargués, les Bateke s'en prennent alors aux Bayaka. Isidore Bolikali de la société civile de Maïndombe explique.
Les Tchadiens n'ont pas accepté qu'il y a qu'à vendre les terres pour leur dire que la terre est une propriété privée, vous ne pouvez pas les vendre. Si vous utilisez après l'usage, vous pouvez nous laisser nos terres, mais pas les vendre exclusivement comme ça. C'est autour de ces discussions-là, les Yaka se sont dit que non, non, les terres, c'est notre terre. Ça a commencé à partir de cela. C'est comme ça, les Yaka se sont rebellés. Ils ont fait la forêt, ils commencent à s'entretenir. Et puis la situation a dégénéré.
Ce qui était un petit conflit sur la redevance coutumière se transforme vite en conflit tribal. Des dizaines de personnes sont tuées et plusieurs autres blessées. Des centaines de familles fuient le territoire des Kwamout vers le territoire voisin des Bolobo et d'autres traversent les fleuves vers le Congo-Brazzaville. Willy Bolio, député national élu des Bolobo, est celui qui avait lancé l'alerte sur ces conflits.
Il y a des corps des enfants qui étaient jetés dans le fleuve Kassai qu'on n'a pas encore retrouvé. On ne sait pas encore évaluer le nombre parce que bon, c'est en vrac qu'on les jetait. Et il y a des déplacés qui sont sur le camp Sokoa, au village Bunkui, et les Diba et Mokele. Tout ça à la merci de toutes les intempéries. Donc voilà pourquoi nous lançons un appel au gouvernement de faire vite pour que ça ne devienne pas insaisissable.
Entre vendredi et dimanche, on dénombre une dizaine de morts à Kwamout, selon un élu du coin. Le député Bolio craint la tournure que prend ces conflits.
Maintenant, à voir comment les choses se passent sur terrain, je me dis être en face du terrorisme, avec un même mode opératoire que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo.
Ça se résume par quoi, ce mode opératoire dont vous parlez?
Tuerie par des machettes et des armes. Ils brûlent les gens dans leur maison. Ce qui a été fait à Massia.
Le gouvernement lance un appel au calme aux deux peuples. Le ministre de l'Intérieur affirme qu'une mission gouvernementale se rendra sur place cette semaine. Des renforts militaires et policiers ont été déployés pour rétablir l'ordre. Daniel Asselo, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.
Tous ceux qui auraient été à l'origine de cette situation-là, que ces deux peuples qui ont toujours vécu ensemble viennent connaître de telles situations jusqu'à se faire tuer. C'est pas possible. Ils doivent prendre cette conscience-là et le gouvernement de la République vient à leur côté pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions durables.
La gouverneure de Maïndombe, nouvellement investie, est attendue dans les heures qui suivent à Kwamout, affirme des sources sur place. Alex Katikatai, Kinshasa, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Togo soutient la 72e édition du comité régional de l'OMS pour l'Afrique à partir de ce lundi dans la capitale Lomé. Les politiques sanitaires des pays de l'Afrique de ces dernières années vont être débattues par les ministres de la Santé de 47 pays du continent et des experts de l'OMS. L'international des agents de santé du secteur public est aussi aux aguets pour porter ses doléances de Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
Les 400 délégués arrivés dans la capitale togolaise vont échanger sur les pratiques de tous les pays sur tous les volets de la santé afin de mesurer leurs points forts qui seront portés à échelle et les points faibles qui mériteraient des améliorations. Selon Mustapha Mijiyawa, le ministre de la Santé du Togo, les besoins spécifiques du continent seront abordés sur tous les plans.
Que ce soit les maladies transmissibles, notamment les maladies infectieuses, ce qui a été fait dans le cadre du VIH-Sida, de la tuberculose, du paludisme, la drépanocytose, des maladies non transmissibles comme l'hypertension, le diabète, le cancer, la question de la couverture sanitaire universelle, la lutte contre les maladies tropicales négligées.
La lutte contre le mutant de la poliomyélite qui réapparaît sur le continent occupera une place importante dans les débats. Fatoumata Binta Diallo, la représentante résidente de l'OMS au Togo.
On a encore des proches ou des enfants ne sont pas vaccinés et ce qui a conduit, si vous voulez, à la mutation du virus. Et nous avons aussi quand même certains pays qui sont encore dans l'insécurité et qui font une bonne partie de leur pays n'est pas du tout vacciné et les enfants donc n'ont pas eu la chance d'être immunisés et ce qui a mené à la réintroduction du poliovirus sauvage. Alors que déjà en 2020, on avait fêté la certification du continent africain contre la poliomyélite.
Pour l'International des services publics, qui regroupe plus de 700 syndicats de la santé, les décisions se prennent trop souvent sans tenir compte des réalités d'exercice des soignants et des conditions dans lesquelles les patients sont soignés. La réunion de Lomé devra remédier à cela. Baba Aye, chargé de la santé et des acquis sociaux à l'International des services publics.
The place of the health worker in this system.
Il y a cette question de considérer les travailleurs comme étant la pierre angulaire même de ce système de santé. Il est question de sauvegarder la sécurité des travailleurs. On a eu des cas où les travailleurs achètent eux-mêmes de leur poche les masques qu'ils vont utiliser pour se protéger. Il faut que tout cela cesse. Je n'oublierai pas la déclaration d'Abuja où les gouvernements ont pris l'engagement d'allouer 15% de leur budget au secteur de la santé. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a que 4 ou 5 pays qui ont pu atteindre ces objectifs.
Les agents de santé exigent le respect des recommandations de la Conférence internationale du travail qui appelle clairement à améliorer les rémunérations dans le secteur de la santé afin d'éviter la désertion du métier et la fuite des cerveaux. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Cela fait un mois que la Cour suprême a pris la décision d'annuler une loi de New York sur la sécurité des armes à feu qui exigeait une licence pour tout port d'armes dissimulé en public. Et cette question fait toujours débat dans le pays, comme l'a constaté Evgenie Maslov, qui a réalisé son reportage dans le New Jersey. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Maintenant, mettez la sécurité. Le point rouge signifie le feu. La sécurité est activée. L'arme est-elle sûre? Non, non, ne comptez jamais sur la sécurité. Tout ce qui est mécanique peut tomber en panne.
Latif Dickerson, directeur de l'Académie des armes à feu du New Jersey, est dans le secteur des armes à feu depuis 27 ans. Il forme des personnes qui envisagent d'obtenir une arme à feu ou un permis de port d'armes dans le New Jersey.
Nous avons des formations de base, intermédiaires et avancées que nous faisons avec tous les différents types d'armes à feu. Et nous avons une équipe de tir de compétition.
Après quelques heures en classe, on peut s'entraîner sur un champ de tir. Latif Dickerson affirme qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent à ces formations et qui se disent prêtes à acheter une arme à feu ou un fusil. Les fusillades de masse dans le pays incitent les gens à réfléchir davantage à l'autodéfense, dit-il.
Chacun devrait avoir la capacité de se protéger et ne pas avoir à compter sur les autres pour sa propre sécurité.
Pour de nombreux Américains, posséder une arme à feu et savoir s'en servir donne aux gens une chance de se protéger lorsque la police n'est pas disponible. Monsieur Dickerson est favorable aux vérifications des antécédents des acheteurs d'armes à feu, mais pour lui, la responsabilité personnelle des propriétaires d'armes à feu est la plus importante, ainsi que le fait de savoir comment manipuler les armes en toute sécurité. Shaquille Perry prend des cours de maniement des armes à feu.
Vous ne voulez pas être là-bas et vous ne savez pas comment vous engager correctement. Cette classe a beaucoup de points intéressants sur le plan juridique.
En juin, la Cour suprême a déclaré qu'une loi de New York sur le contrôle des armes à feu restreignant le port d'armes à feu dissimulées était anticonstitutionnelle. La décision a déclenché des manifestations à New York et les autorités ont promis de trouver de nouveaux moyens pour contrôler la situation. Adrienne Adams est présidente du conseil municipal de New York.
À la lumière de la décision rendue par la Cour suprême des États-Unis dans cette affaire, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et simplement regarder nos rues être inondées d'armes à feu, car davantage de personnes sont autorisées à porter légalement des armes à feu en public.
Les législateurs de New York ont depuis désigné des parties dans la ville comme zones sans armes à feu, comme les bâtiments gouvernementaux, les écoles et les lieux de culte. Sans surprise, les défenseurs des droits des armes à feu affirment que la situation devrait être gérée différemment. Aux États-Unis, le débat sur le contrôle des armes à feu est l'un des plus passionnés dans un pays où le droit de porter des armes est inscrit dans sa constitution.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Merci également à l'équipe de rédaction, au micro Eric Manirakiza, ainsi que Le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, sur votre site internet voafrique.com. Sans oublier les pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.